Chapitre 30. Le Burgerman est passé à l'action. Je me suis réveillée hier soir au bruit des cris étouffés. Ça a duré toute la nuit. Le Burgerman chevauche toujours ses nouveaux jouets longtemps et brutalement, jusqu'à ce qu'il se brise, comme moi. Au matin, je connaissais la marche à suivre. Se lever, aller dans la cuisine, prendre le petit déjeuner. Faire comme s'il n'y avait rien au monde de plus naturel que de voir un gamin de 7 ans, tout nu, assis à la table délabrée, hébété devant un bol de céréales plein à ras-bord. Il ne disait rien. Regardait fixement ses Fruit Loops devenir peu à peu rouges, verts et bleu foncé. Je n'ai pas cherché son regard. Je ne voulais pas qu'il s'imagine que j'avais un quelconque rapport avec tout ça. Le Burgerman était encore dans la chambre, sans doute à récupérer de ses efforts nocturnes. J'ai remarqué que le téléphone avait disparu et que la porte s'était agrémentée d'un nouveau verrou en hauteur, hors de portée du nouveau jouet. Mon pouls s'est légèrement accéléré. Je me suis demandé si le Burgerman se souvenait du téléphone dans ma chambre. S'il y était entré discrètement au milieu de la nuit pour me le piquer. J'ai fait de mon mieux pour retourner dans ma chambre d'un pas nonchalant. Le téléphone s'y trouvait encore. J'ai décidé de ne courir aucun risque et je l'ai enlevé moi-même pour le cacher dans mon placard. Merde, j'allais quand même pas perdre des privilèges sous prétexte que le Burgerman était incapable de contrôler ses appétits. De retour dans la cuisine, je me suis à mon tour servi un bol de céréales et je me suis mis à mâcher en silence. Ma présence a dû galvaniser le gamin parce qu'il a lentement pris sa cuillère et aspiré un peu de céréales ramollies. Je me suis demandé s'il arriverait à ne pas les rendre. Certains y parvenaient, d'autres non. Il aurait disparu d'ici un jour ou deux, quand le Burgerman en aurait eu son comptant. Est-ce qu'il les tuait, les relâchait? Je ne savais pas. Je m'en foutais. Je ne me rappelais même plus en quelle année j'étais née, ma date de naissance exacte. Mais je devais être un adolescent parce que la seule émotion dont j'étais désormais capable, c'était le mépris. Pour le Burgerman, pour le gosse, pour moi-même. Et là, sans raison, j'ai repensé au tout premier gamin. Après toutes ces années. Celui que j'avais cru pouvoir aider. Je me suis demandé si son corps avait fini par être retrouvé, ou s'il se décomposait encore tout seul, sous l'azalée. L'idée m'a fichu en rogne. J'ai attrapé mon bol de céréales et je l'ai balancé dans l'évier. Le bruit a fait sursauter le nouveau jouet. Le Burgerman est entré dans la pièce. Il avait passé un pantalon, mais pas de chemise. Le temps ne lui avait pas fait de cadeau. Sa barbe était plus grise que noire, sa silhouette s'était avachie à force de bière et de nourriture trop grasse. De la peau pendait de son torse chétif et de ses bras décharnés. Il avait exactement l'air de ce qu'il était. Une crapule sur le retour. Un pied dans la tombe, mais toujours mauvais comme la gale. Je l'ai haï, comme au premier jour. Il m'a regardé, puis il a posé une main sur l'épaule du nouveau. Au premier contact, le gamin a frémi, puis il s'est figé, immobile, tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Soudain, le Burgerman m'a adressé un grand sourire. « Fiston, » m'a-t-il annoncé triomphalement, « je te présente le petit, c'est ton remplaçant. » Et c'est à cet instant précis que j'ai su que le Burgerman devait mourir. J'ai attendu qu'il se retire dans sa chambre, traînant le petit à sa suite. Puis j'ai disparu dans la mienne, meublée qu'elle était d'un grand matelas miteux, de caisses de lait en guise de bac à vêtements et d'une petite télé en noir et blanc que j'avais récupérée dans la poubelle des voisins et réparée moi-même. Ma chambre puait. Les draps, la literie, les vêtements sales, tout gardait cette odeur fétide de transpiration, de peau pas lavée, de nuit trop longue. Tout cet appartement sordide sentait comme ça. Le lait tournait dans le frigo, l'évier débordait de vaisselle sale, des cafards couraient sur la cuisinière. Cela a ravivé ma colère, la puanteur rance de ma vie, la vacuité grise et sans fin de mon existence. Parce que le burgerman m'avait choisi, et qu'après cela, je n'avais plus eu la moindre chance. Et maintenant, il n'y aurait même pas d'examen de passage. Oh non, le burgerman avait un nouveau joujou à présent. Un jouet qu'il avait l'intention de garder, ce qui signifiait que mes jours étaient comptés. Alors, inexplicablement, le rejet du burgerman m'a été plus cuisant que son affection ne l'avait jamais été. J'étais un imbécile, un lâche, un rien du tout. Le burgerman m'avait tué. J'ignorais seulement comment mourir. Encore des hurlements. Ce pauvre idiot braillait comme si ça allait changer quelque chose. Je me suis traînée jusqu'au milieu de mon lit. J'ai remonté les couvertures sur ma tête et je me suis bouché les oreilles. Je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, il faisait noir. Je suis restée un long moment sur mon matelas à observer la lumière du réverbère filtrée par les stores, les raies projetées sur le mur du fond. Ensuite, je me suis levée, je suis allée vers le placard et j'ai pris le téléphone. De retour sur mon matelas, j'ai soulevé le coin pour attraper un annuaire que j'avais introduit en douce dans l'appartement pendant que le burgerman avait le dos tourné. Quand j'ai fini par retrouver le numéro, j'avais les mains tremblantes et la bouche sèche. Je ne me suis pas autorisée à m'arrêter, pas autorisée à trop réfléchir, brancher le téléphone, composer le numéro. Dès que ça a décroché, j'ai murmuré. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Et puis j'ai raccroché et pleuré. Chapitre 31. Les araignées sont passées maîtres dans l'art du poison. Elles injectent le venin à l'aide de crochets qui ressemblent à des griffes recourbées sous leurs yeux. Tiré de Freaky Facts About Spiders, Christine Morlet, 2007. Qu'est-il arrivé à tes parents ? Demanda le garçon. Assis sur la terrasse avec elle, il buvait un verre de limonade en poudre. Il avait travaillé l'essentiel de la matinée, depuis qu'il avait fait son apparition peu après 6 heures du matin. Elle l'avait fait entrer sans commentaire, et il lui avait servi un petit déjeuner en parlant de tout et de rien. Il n'avait pas évoqué leur dernière rencontre, et elle non plus. Elle avait agi de même avec Mel lorsqu'il avait sonné chez elle l'après-midi précédent avec un carton rempli de saucisses fraîches, d'œufs et de jus d'orange. Il le lui avait tendu sans un mot. Elle avait accepté sans un geste de gratitude, puis chacun était parti de son côté. Les choses sont parfois plus faciles comme ça. Elle avait remarqué que le garçon se déplaçait avec raideur lorsqu'il l'avait aidé à rouler ses tapis et à les tirer dehors pour les battre un bon coup. Ses côtes semblaient le faire souffrir, et elle le surprenait de temps en temps à se masser les fesses. Elle n'avait jamais posé de questions, il n'avait rien dit. Le ton de leur journée grise et fraîche était donné, et maintenant ça. « Mes parents sont morts, » répondit Rita. Il y a longtemps. Ils sont morts de quoi ? De vieillesse, répondit-elle avec philosophie. Personne n'est éternel. Tu es vieille, toi. Elle pouffa. Tu crois que je vais tomber raide, mon garçon ? Te laisser sans compagnon de petit déjeuner ? Ne t'inquiète pas, le monde n'en a pas encore fini avec moi. Mais elle la regardait avec gravité. J'ai eu des parents, dit-il tout à coup. Elle s'arrêta de rire, lissa la vieille chemise à carreaux verte de Joseph dont l'ourlet lui tombait presque au genou. Je vois. Ils sont morts, eux aussi. Je suis désolée. Je ne sais pas comment, continua-t-il sans désemparer, mais d'une voix plus chargée d'émotion. Je les avais, et puis un jour ils ont disparu. Juste comme ça. Ma sœur aussi, elle était petite. Toujours à fouiller dans mes affaires. À vouloir jouer avec moi. Je n'étais pas gentille avec elle. Je lui disais qu'on jouait à cache-cache, mais quand elle était cachée, je la cherchais pas. Je partais jouer tout seul. Alors elle pleurait, je la traitais de bébé, et maman me grondait. Moi aussi, j'ai eu un grand frère comme ça. Il était méchant. Et alors la famille l'a envoyé vivre avec les autres méchants garçons. Nous l'aimions tous, répondit-elle, impassible. Ensuite, il est parti, et il a été tué à la guerre. Des frères et sœurs se disputent, bonhomme, mais ça ne les empêche pas de s'aimer. Une fois, j'ai donné à ma petite sœur un nounours que j'avais eu pour mon anniversaire, murmura l'enfant. Je savais que ça lui ferait plaisir. Et ça a été le cas? Je crois, oui. Des fois, j'ai du mal à me souvenir. J'essaie de les imaginer, mais ça se mélange dans ma tête. Comme mon parfum de glace préféré. Je crois que c'est chocolat, mais ça fait tellement longtemps. Peut-être que c'est vanille ou fraise. Est-ce que c'est possible de vous prendre votre parfum préféré? Tout s'embrouille. Qu'est-il arrivé à ta sœur? Elle est morte, j'imagine. Ils sont tous morts, c'est ce qu'il dit. Il se trouvait en terrain miné à présent. Même sans comprendre, Rita le sentait. Lorsqu'elle avait fait la connaissance du garçon, elle avait supposé qu'il venait d'une famille à problème. C'était toujours l'expression qu'employaient les assistantes sociales à son époque. Cet enfant vient d'une famille à problème. Mais ces derniers temps, Rita avait commencé à se poser des questions. Elle s'efforça de bien choisir ses mots. Quand tes parents étaient en vie, tu habitais par ici? C'est où, ici? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Dahlonega, les Blue Ridge Mountains, en Géorgie. C'est ici que tu es née? Il garda le silence si longtemps qu'elle n'était pas sûre qu'il allait répondre. Mais ensuite, lentement, il secoua la tête. Macon Bacon, c'est ce que disait toujours mon père quand nous étions sur l'autoroute. Macon Bacon, le royaume du poulet. Ça le faisait rire. Et puis il aimait le bacon. Et les œufs brouillés le matin. Tu crois que c'est ça qui l'a tué? De manger des œufs au bacon? Le garçon la regardait avec candeur. Cette expression lui donnait l'air plus petit, plus vulnérable. Rita se demanda une fois de plus si elle faisait ce qu'il fallait. Puis elle aperçut son frère Joseph qui courait dans le jardin, sautait pour s'accrocher à la plus basse branche du vieux chêne et y grimpait avec agilité comme il le faisait dans leur enfance. Joseph jouissait d'une jeunesse éternelle dans l'au-delà. Elle se demanda si c'était parce qu'il était mort jeune ou si c'était un choix laissé à la discrétion de chaque esprit. Elle était fatiguée, songea-t-elle. Fatiguée de ses articulations douloureuses, de la profonde morsure que la froidure d'un matin d'hiver infligeait à ses chairs ratatinées. Il ne lui restait guère de temps, pensa-t-elle. Raison de plus pour en faire bon usage. Quand tes parents sont morts, tu avais encore de la famille? Le garçon l'observa avec curiosité, presque perplexe. Est-ce qu'une assistante sociale est venue te voir? S'entêta Rita. Te parler de ta famille d'accueil et de ta nouvelle maison. C'est quoi une famille d'accueil? Rita se figea dans le fauteuil à bascule, puis s'obligea à reprendre son mouvement. Ses pensées se bousculaient. Si le garçon ne vivait ni avec ses parents, ni avec d'autres membres de la famille, ni dans une famille d'accueil, elle regretta de ne pas sortir davantage, de ne pas connaître ses voisins. Elle aurait tellement aimé demander à quelqu'un à quel moment il avait remarqué le garçon pour la première fois, ou ce qu'il savait de la maison sur la colline et de l'homme qui y habitait. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'une famille à problème, elle en était certaine. Elle entrait plutôt dans une histoire plus sombre, plus sinistre. « Qui vit avec toi, bonhomme ?» demanda-t-elle d'une voix égale. Il secoua la tête. « Tu peux me dire ? Je suis une vieille dame, tu sais. Nous sommes les meilleurs pour garder les secrets. » Le garçon refusait de la regarder. Il baissa les yeux. « Je crois que je devrais plus parler, » murmura-t-il. « Dis-moi comment tu t'appelles ?» Il secoua la tête. « Et ton anniversaire ?»« J'en ai pas. On ne fête que le jour de notre arrivée. Celui où on lui appartient. »«
Il y en a d'autres ?» insista-t-elle. « Des enfants, des adultes, des animaux ?»« Parle-moi d'eux, je ne jugerai pas. »
Le garçon examina son verre de limonade vide, puis la forme de la balustrade. Tout en se balançant dans son fauteuil, Rita observait les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon. Percevait la vibration électrique de l'orage imminent. Elle avait envie d'insister davantage, mais se retint. Les enfants parlent quand ils en ont envie. Il faut avoir la patience de les laisser venir à soi.
« Il va te tuer, » dit-il.
Elle balaya l'idée d'un revers de la main. « Penses-tu ? Je mourrai quand je l'aurai décidé et pas une minute avant.
Tu ne le connais pas. Il obtient ce qu'il veut. Il obtient toujours ce qu'il veut. »
La première bourrasque déferla, mêlée de pluie, avec le goût des pins lointains. Rita vit un éclair, suivi de peu par le coup de tonnerre. Ça allait être un bel orage, de ceux qui ébranlent les maisons jusqu'à leur fondation.
« Faut que j'y aille, » dit le garçon en se levant. « Ne dis pas de bêtises, tu vas passer la nuit ici. »«
La pluie arrive, » insista-t-il. « Il faut que je rentre. Tu vas passer la nuit ici. Rita, assis. »
Le garçon blêmit devant la fermeté de son ton. Il se laissa tomber dans son fauteuil, sur ses gardes à présent, nerveux.
« Que tu refuses de me parler, » dit sèchement Rita, qui se balançait avec colère dans son petit fauteuil en bois, « ça te regarde. Mais tu ne retourneras pas dans la maison de la colline. Ma conscience m'interdit de t'y renvoyer, et ça, ça me regarde.
Il va être furieux. C'est pas une bonne idée. Sottise.
À mon âge, qu'est-ce qu'un homme peut faire qui ne soit pas déjà sur le point d'arriver ? S'il est furieux, il n'a qu'à venir me voir. Parce que j'ai 2-3 mots à lui dire. »
Elle termina avec un air bravache, se leva de son fauteuil, frappa du pied. Mais ni elle ni le garçon n'étaient dupes. Rita ne connaissait pas cet homme, mais elle avait déjà compris. Si le tuteur de Scott se présentait à sa porte, ce ne serait pas pour discuter.
« Rita, j'appelle la police ?»«
Non !»
Il avait répondu dans l'instant, le regard effaré. Assez pour qu'elle sache qu'à la seconde où elle prendrait le téléphone, il se sauverait.
« Alors c'est décidé, » déclara-t-elle. « Tu restes, on va faire du ragoût.
Prendre du chocolat chaud, rester bien à l'abri et regarder le monde livré à la tourmente. C'est la meilleure façon de passer une nuit d'orage. »
Le garçon la regarda, les yeux écarquillés, plein de quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. De la peur, de l'espoir, du désir. Il ouvrit la bouche. Elle crut qu'il allait protester, ou peut-être sauter du perron et gravir la colline à toutes jambes. Mais alors il referma la bouche, se redressa. « Ni content, ni soulagé, » remarqua-t-elle, comme un soldat résigné à la guerre. Rita le fit entrer, referma la vieille porte derrière eux. Il se dirigea vers la cuisine pendant qu'elle s'arrêtait dans le vestibule pour tirer les verrous. Les premières grosses gouttes de pluie frappèrent l'allée. Elle ferma le cadenas récemment posé en faisant mine de ne pas remarquer l'obscurité grandissante devant sa fenêtre, ni les lumières de la vieille maison victorienne au sommet de la colline.